Dans l'actualité des idées aujourd'hui, pandémie et démocratie, quelle place pour le peuple? Notre invitée, la philosophe belge installée à Londres, Chantal Mouffe, professeure à l'université de Westminster. Elle a théorisé le populisme de gauche et inspiré des mouvements comme Podemos, des mouvements proches de la gauche radicale. Elle est l'auteur de Construire un peuple pour une radicalisation de la démocratie, c'était il y a 3 ans, ou encore de Pour un populisme de gauche, il y a 2 ans. Dans le cadre de notre semaine européenne, nous l'interrogeons sur ce que la pandémie a fait à la démocratie, alors britannique, belge, espagnole, mais aussi française, la France vue de Londres. Bonjour Chantal Mouffe.
Bonjour Olivia.
Bonjour. Depuis le début de la crise sanitaire, de nouvelles solidarités ont vu le jour, mais aussi de nouvelles inégalités. Pour vous, et pour commencer par une photographie un peu générale, Chantal Mouffe, qu'est-ce que cette pandémie a révélé avant tout ou exacerbé?
Clairement, elle a exacerbé la crise de l'hégémonie néolibérale et elle a révélé, on le connaissait déjà, mais enfin, elle a mis vraiment en évidence les inégalités qui existent dans nos sociétés parce que, bien entendu, cette pandémie a affecté beaucoup, beaucoup plus gravement les secteurs plus vulnérables.
Dans Libération, Pierre-Rosan Vallon, professeur au Collège de France, qui n'est pas, comme vous, dira-t-on, un inspirateur de la gauche radicale, qui est plutôt un homme du milieu, dit qu'il y a bien, selon lui, aujourd'hui, en ce moment, en marche, en France, un dévoiement démocratique. On se rapproche, dit-il à Libération, d'une démocratie à tendance technocratique, matinée d'un penchant liberticide. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, Chantal Mouffe, avec ce diagnostic? Est-ce que vous craignez, comme certains aujourd'hui, sans dire qu'on y est déjà, loin de là, un tournant autoritaire?
Oui, je reconnais que je suis sur ce point d'accord avec Pierre-Rosan Vallon, sauf que je crois que nous divergeons en ce qui concerne la stratégie à suivre, parce que moi je considère que la stratégie populiste de gauche est particulièrement pertinente dans la perspective d'une sortie de la crise du Covid-19 qui préluderait à la construction d'un nouveau contrat social, tandis qu'évidemment, Pierre-Rosan Vallon ne va pas considérer que c'est la stratégie populiste de gauche qui peut, si vous voulez, nous faire recouvrer la démocratie. Mais je crois qu'il est important, en fait, de faire une analyse de la conjoncture actuelle. Parce que, cette pandémie a, comme je le disais il y a un moment, exacerbé la crise du néolibéralisme, mais d'une certaine façon, elle peut permettre à ce néolibéralisme d'avoir, si vous voulez, un nouveau, je ne dirais pas vraiment se récupérer complètement, mais enfin d'atténuer un peu pour un certain temps la crise, parce qu'on voit comment ils sont en train de, ici je parle en général, les gouvernements néolibéraux en Europe, d'une certaine façon, sont en train d'essayer d'utiliser l'État pour réaffirmer la prédominance du capital. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est le développement d'une espèce de néolibéralisme étatisé, pourrait-on dire, qui a de très fortes tendances autoritaires. Alors ça se présente de manière différente selon les différents pays. En France, c'est vraiment très caractéristique, hein, mais en Grande-Bretagne aussi, sauf que, vu la situation politique qui est différente, ça se présente pas de la même manière.
Alors comment justement ça se manifeste, comment, en Grande-Bretagne à vos yeux?
Écoutez, en Grande-Bretagne, la Priti Patel, qui est la ministre de l'Intérieur, home office, c'est une des plus à droite du gouvernement de Boris Johnson. Et en ce qui concerne toutes les questions, par exemple, d'immigration, elle est vraiment extrêmement autoritaire. Mais ça se manifeste aussi dans la façon dont ils ont, si vous voulez, répondu à la pandémie. Il faut dire que ce gouvernement est d'une incompétence absolument incroyable, hein, parce que le problème, c'est que Boris Johnson, en fait, il a pris comme ministre pas des gens qui étaient justement spécialistes, mais il suffisait d'être un Brexiteur, d'avoir défendu le Brexit, alors là, vous pouviez participer. Donc, ça a été vraiment extrêmement chaotique, cette mise en place de... Mais, très autoritaire aussi. Par exemple, ça a été tout imposé, toutes les mesures. Bon, alors ils en changeaient pratiquement une semaine, toutes les semaines, mais très extrêmement autoritaire au point que ça a créé justement des oppositions, des réactions très fortes des différents maires des grandes villes. Par exemple, il y a eu un conflit avec Andy Burnham, qui est le maire de Manchester, parce que bon, il n'acceptait pas du tout qu'on impose un lockdown, donc un confinement exclusivement sur Manchester. Donc oui, ça a été extrêmement autoritaire la façon dont ils ont mis en place les mesures pour lutter contre la pandémie.
Sur ce néolibéralisme d'État ou étatique tel que vous l'évoquez à l'instant, Chantal Mouffe, comprendre les formes qu'il peut revêtir un peu partout en Europe, est-ce qu'on assiste, pour bien cerner votre pensée, plutôt à un retour des États ou à un retour du politique avec cette crise sanitaire ?
Ça dépend un peu aussi des pays, ça dépend des stratégies, parce que il y a, si on examine la situation, en fait, on peut voir qu'il y a deux réponses, plutôt autoritaires à cette crise. Il y a donc la réponse des gouvernements néolibéraux, ici je pense à la France, par exemple, très, très clairement, mais aussi une réponse plus dans la direction, si vous voulez, d'un populisme de droite. Hein. Alors, le populisme de droite, évidemment, vont proposer comme solution, ils disent que la crise est due à la politique de globalisation des gouvernements néolibéraux et que la solution, c'est justement un retour à un nationalisme, mais vraiment extrêmement exclusif. Et aussi, par exemple, bon, on a des mesures protectionnistes. Donc là, il y a un renforcement de l'État. Alors, c'est pas nécessairement le cas d'autres gouvernements néolibéraux. Je crois que ce qu'il faut voir, et c'est ça, à mon avis, qui est caractéristique de la situation actuelle, et qu'il y a un véritable danger d'un tournant autoritaire dans nos sociétés. Parce que, en fait, tous ces gouvernements néolibéraux qui veulent utiliser l'État pour réaffirmer le pouvoir du capitalisme, aussi utilise énormément des solutions technologiques. Alors là, vraiment, la question de ce qu'on appelle le solutionnisme technologique qui a été examiné par
Evgeny Morozov.
Alors là, c'est vraiment, à mon avis, c'est une des caractéristiques principales de ce qui se passe actuellement. Et c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Parce que on assiste, en fait, à une nouvelle forme de la troisième voie qui s'était imposée dans les années 90, avec cette idée que pour les oppositions, enfin, gauche-droite, c'est fini, on a dépassé ces antagonismes, on peut maintenant avoir un accord absolument général entre tous les groupes sociaux, et que vraiment, il n'y a plus d'entreprise. Alors, c'est ça, justement, il n'y a pas de retour du politique. Je crois que ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un retour du politique aujourd'hui. Parce que toute la tendance du solutionnisme technologique, c'est précisément de dire, au fond, tous les problèmes, même les problèmes politiques, ont des solutions technologiques. Ils affirment aussi, par exemple, que les plateformes numériques pourraient servir de base à l'établissement d'un ordre politique. Et alors là, bien entendu, ça, c'est extrêmement dangereux si on voit cette union, si vous voulez, entre le solutionnisme technologique, le capitalisme étatisé, et ça, quand je disais que ça permettrait au néolibéralisme de se renouveler, évidemment, ils ne vont pas pouvoir solutionner la crise du néolibéralisme, en tout cas, ça peut leur donner, si vous voulez, quelques années, un répit, je dirais, parce que les citoyens vont finalement croire, bon, mais après tout, oui, si la solution de la crise, c'est d'accepter ces mesures technologiques. Bon, ben, même si avant, par exemple, il y avait de très fortes réticences, maintenant ils l'acceptent d'une manière plus ou moins. Bon, ils sont devenus assez passifs parce qu'on leur promet que la solution à la crise va se faire à propos de ça. Alors justement,
devenu passif, mais c'est aussi, pardon Chantal Mouffe, les questions que vous posez, c'est est-ce que le peuple est devenu passif ou est-ce que simplement pour l'instant il n'a plus voix au chapitre et s'il l'a, par quel biais peut-il s'exprimer? On va continuer à envisager toutes ces questions avec vous, juste pour préciser pour l'auditeur ce que vous nommez en reprenant le concept défini par le Biélorusse Evgeny Morozov, ce solutionnisme numérique, c'est cette idée que tous les problèmes peuvent être résolu par l'utilisation d'outils technologiques. On a pu le voir évoqué, en tout cas dans nos débats à propos du traçage des malades, l'utilisation donc de cet outil numérique technologique pour tenter de résoudre des questions qui se posent. La fin du capitalisme tel qu'on l'a connu jusqu'ici. Le journaliste économique François Langlais, auteur de Quoi qu'il en coûte, qui va vraiment payer un ouvrage qui vient de paraître chez Albin Michel et qui pointe aujourd'hui les dangers de l'hyperdette, revenait il y a un an déjà, Chantal Mouffe, sur les grands principes qui menaient, selon lui, l'économie. Je vous propose de l'écouter.
L'économie obéit toujours à son maître. Son maître, c'est la société. Et elle est dominée alternativement par deux pulsions contradictoires. Le désir de liberté, c'est de cette phase-là dont nous sortons. C'est né dans les années 60 avec la génération des baby-boomers qui se définissait elle-même contre la génération qui l'avait précédée, qui avait été dominée par les désordres de la première moitié du XXe siècle et qui justement tenait à la liberté individuelle. Petit à petit, cette génération, au fur et à mesure que elle s'est intégrée dans l'économie, qu'elle a pris le contrôle des leviers de la société, elle a imposé le libéralisme universel jusqu'en 1989. Ouais, la chute du mur de Berlin, 99, la bulle, etc. Ce cycle libéral se termine avec une double crise financière d'un côté, liée à l'excès d'endettement. On en a vu les prémices en 2009, mais on est parti pour recommencer. Et puis politique aujourd'hui, avec la montée des populistes. Et ce qui va basculer, je crois, c'est justement ce logiciel. Le logiciel libéral est finissant. Il est en train de mourir et je crois qu'il est remplacé par quelque chose, justement, de beaucoup plus autoritaire, en quelque sorte. Ouais. Hein, et que le désir de liberté disparaissant, c'est le besoin de protection qui prend le relais.
Voilà, le logiciel libéral était déjà finissant, selon François Langlais, il y a un an, Chantal Mouffe. Est-ce que la crise sanitaire a accentué, vous le pensez aussi, ce besoin de protection?
Ah oui, absolument. Je crois que justement, mais alors la protection, justement, ça peut être conçue de manière différente. Mais pour en revenir à ce que disait François Langlais, je crois que, oui, il y a, j'essayais de dire qu'au fond, et je crois que c'est toute la différence, vous me dites que cette intervention, il l'a faite il y a un an, mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une conjoncture un peu différente parce que le néolibéralisme est en train d'essayer de se réinventer sous une forme justement technologique. Alors, bien entendu, c'est le développement d'une forme de néolibéralisme autoritaire. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très caractéristique. Mais néolibéralisme autoritaire qui utilise des formes technologiques, de développement du capitalisme numérique, pour essayer de se réinventer. Donc, ça peut permettre au néolibéralisme encore de subsister pendant un certain nombre d'années. Je crois qu'aujourd'hui, alors là, il y a vraiment une différence avec ce qu'il y a un an. Le danger principal pour la démocratie ne vient pas des forces populistes, il vient du libéralisme lui-même. Parce que c'est un libéralisme qui est en train de devenir beaucoup plus autoritaire. On voit ça très, très clairement en France, par exemple. Donc, je dis que c'est une conjoncture particulièrement importante pour le développement du populisme de gauche. Vous me demandiez le rôle du peuple. Alors, mais justement, je crois que face à ce danger d'un tournant autoritaire, il est vraiment important d'organiser la résistance contre cette tendance. Et là, je crois qu'il peut y avoir justement toute une série de secteurs qui peuvent s'unir. Le projet de la populisme de gauche a toujours été de fédérer les demandes démocratiques. Je crois qu'aujourd'hui, les demandes démocratiques sont d'une certaine façon encore plus plus grande, parce que la réponse, la lutte contre l'autoritarisme devrait pouvoir permettre d'amener justement pour la construction de ce que j'appelle un peuple. Parce qu'en fait, là, il faut que je clarifie tout de même. Il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que le peuple du populisme de gauche. Le peuple du populisme de gauche, ce n'est évidemment pas une catégorie sociologique. Ce n'est pas un référent empirique. C'est une construction politique. Construction politique qui, justement, créée par la mise, si vous voulez, en relation par la fédération de toute une série de demandes démocratiques de types différents. Donc, je crois que, justement, face à cette montée de l'autoritarisme, on devrait pouvoir créer un vaste front populaire pour résister à cette montée. Et vous parliez de la protection, je crois que c'est extrêmement important parce que, justement, il faut, quand on va se créer, moi, la question qui m'intéresse véritablement, en fait, c'est là où je peux apporter quelque chose, parce que bon, les politiques concrètes, bon, il y a des tas de gens qui font des choses très intéressantes, mais ce n'est pas mon domaine. Mais je crois qu'il faut, moi, je me demande, comment est-ce qu'on va justement créer ce peuple? Et je crois que pour comprendre ça, il faut vraiment analyser quelle est la situation actuelle et ce besoin de protection qui se manifeste en réaction justement à la crise sanitaire. Alors là, c'est pour ça que je fais référence à Karl Polanyi, qui justement est celui qui a déjà insisté dans son livre de 1945 sur le fait que lorsqu'une société est, si vous voulez, dans une situation où il y a vraiment une disruption très grande, elle tend à demander de la protection. Et alors, la question aujourd'hui fondamentale, c'est comment est-ce que cette protection va être conçue? Qui va l'offrir? Alors, le néolibéralisme offre une protection de type numérique, mais là, le populisme de gauche doit offrir une protection qui permette, si vous voulez, d'unir toutes ces catégories, tout ce peuple autour d'une conception qui va pas les amener à accepter passivement des formes de contrôle digital, mais au contraire, en anglais on dit empower, leur donner la possibilité de participer, d'avoir un projet qui leur donne l'espoir d'une société où la liberté et l'égalité vont être mises en pratique. C'est pour ça que je propose d'utiliser l'idée d'une transformation démocratique verte comme étant, si vous voulez, le principe articulateur de cette volonté populaire que le populisme de gauche veut construire.
Voilà, en vous appuyant sur la pensée de Karl Polanyi, vous rappelez que ce souhait de protection, Chantal Mouffe, peut permettre la formation de ce que vous appelez aussi des contre-mouvements, des réactions de résistance. Je ne peux pas laisser dire qu'on réduit les libertés en France, a déclaré le président Macron vendredi dernier dans un entretien aux médias bruts. Et pourtant, entre l'état d'urgence sanitaire et les restrictions en matière de déplacement, de liberté de se réunir, de manifester, l'intrusion aussi des technologies dans nos vies que vous avez évoquer Chantal Mouffe et les propositions en discussion au nom de la sécurité globale, on peut commencer peut-être à s'inquiéter sur l'état dans lequel nos libertés vont ressortir après cette crise épidémique, si tant est qu'on tente de se projeter dans l'après. Mais vous nous dites aussi que dans des moments comme ça, des anticorps peuvent se former pour que ce corps social, ce peuple tel que vous le définissiez, réagisse et se mette en marche pour créer un contre-mouvement. Contre-mouvement peut-être aussi à l'ordre en Italie avec des manifestants, travailler liberté, tu nous fermes, tu nous paies. Cet automne, l'Italie a aussi vu des manifestations de colère se multiplier pour protester contre les restrictions mises en œuvre avec des manifestants de tous bords. Alors ce contre-mouvement au libéralisme, cette transition écologique que vous évoquez, Chantal Mouffe, on y vient. C'est peut-être aussi comme ça qu'on peut comprendre à quoi correspond cette stratégie populiste de gauche, comment elle peut se traduire avec vous jusqu'à 13h30.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Une transition écologique, ce serait peut-être pour vous, Chantal Mouffe, le point de cristallisation d'union qui permettrait aux différents mouvements de se retrouver. On va écouter à ce sujet les mots de la femme politique Alexandria Ocasio-Cortez, qui évoquait elle aussi son souhait d'un Green New Deal. On l'écoute.
L'environnement n'est pas un problème réservé aux élites. C'est un problème de qualité de vie. Vous voulez dire aux gens que leur souhait d'accéder à un air propre et des eaux propres est élitiste? Dites ça aux enfants du sud du Bronx, qui souffrent du plus haut niveau d'asthme chez l'enfant à travers tout le pays. Dites ça aux familles à Flint, dont les enfants voient monter leur niveau de plomb dans le sang. Leurs cerveaux sont endommagés pour le reste de leur vie. Dites-leur qu'ils sont élitistes. Des gens sont en train de mourir. Ils meurent. Et la réponse de l'autre côté de l'allée est d'introduire un amendement de 5 minutes avant l'audience? C'est sérieux. Ça ne devrait pas nous diviser. On parle de nos citoyens et de nos vies. Iowa, Nebraska, de larges zones du Midwest sont en train de couler sous les eaux. Des fermes, des villes qui ne s'en remettront jamais et qui ne reviendront jamais comme avant. Et certaines personnes s'intéressent plus à aider les entreprises pétrolières qu'à aider leurs propres familles. Non, je ne pense pas. C'est de nos vies dont il s'agit, de la vie d'Américains. Ça ne devrait pas être un problème de parti. La science ne devrait pas diviser. Nous faisons face à une crise d'ampleur nationale.
L'environnement n'est pas un problème élitiste, dit Alexandria Ocasio-Cortez, Chantal Mouffe. Il peut être le terreau de l'union, du rebond de demain, à vos yeux aussi, Chantal Mouffe?
Absolument, oui. Pour moi, le modèle de Green New Deal défendu par Alexandria Ocasio-Cortez, ça c'est vraiment un exemple de ce qu'on appelle une transition démocratique verte. Alors, je ne reprends pas le terme Green New Deal, donc le nouveau deal grec, parce que je crois qu'en fait, je suis d'accord avec ça, je crois que aux États-Unis, c'est vraiment la meilleure façon de le présenter, parce que ça établit une relation avec le New Deal de Franklin Roosevelt. Donc, si vous voulez, ça résonne dans l'imaginaire aux États-Unis, et ça permet justement de mobiliser toute une série de luttes qu'avait mis en place Franklin Roosevelt, parce que ce qui est à mon avis très important, et je voudrais insister là-dessus, c'est que il est nécessaire pour avoir une transition écologique véritable, une rupture avec le capitalisme financier. Ça, c'est absolument central. Et ça, on le voit clairement dans la stratégie d'Ocasio-Cortez, et c'est pour ça que les références, si vous voulez, à la politique de Roosevelt sont vraiment très, très importantes. Mais si j'appelle ça la transition démocratique verte, parce que je crois que ce qui est important justement, c'est que cette transition se fasse d'une manière qui mobilise les valeurs démocratiques, qui présente cette transition écologique comme une nouvelle étape de la révolution démocratique. Je crois que c'est ça qui permet d'activer l'imaginaire démocratique. Parce que, comme je le disais, pour moi, fondamentalement, ce qui est important en politique, c'est c'est pas uniquement, mais on peut pas laisser de côté les affects. Là, je me base sur Spinoza qui disait les idées ont uniquement de la force lorsqu'elle rencontre les affects. Alors, on m'a beaucoup critiqué en disant « Mais Chantal Mouffe, elle rejette la rationalité, elle veut mobiliser uniquement les affects. » Mais non, ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est que je crois que les idées doivent être, si vous voulez, rencontrer les affects. Aussi, elles n'auront pas de force. Je vais vous donner un exemple, en fait, qui me semble, à mon avis, vraiment intéressant de ce que j'entends par là. L'année dernière, enfin les élections l'année dernière en Grande-Bretagne, on avait deux stratégies. On avait la stratégie du Parti laboriste, qui avait un programme extrêmement détaillé, avancé, avec toute une série de mesures vraiment extrêmement bonnes, mais qui n'a pas réussi à mobiliser les affects parce qu'il est présenté d'une manière comme... Un peu comme, nous, l'État, on va vous donner ça. Si on arrive au pouvoir, on va vous donner ça, Si vous voulez, c'était un peu les citoyens se sentaient un peu assistés. D'un autre côté, on avait la stratégie de Johnson. Alors, il n'y avait absolument pas de programme, rien de prévu, mais uniquement mobilisation des affects. Donc, il l'a fait de manière très, 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 avec beaucoup de succès. C'est-à-dire, Get Brexit done, take back control, donc reprenons le contrôle, réalisons le Brexit. Alors on avait, vous voyez, d'un côté une politique, un programme très très bien, sans affect, et d'un autre côté, des affects sans programme. Eh bien, malheureusement, ce qui a gagné, c'est les affects sans programme. Donc, il est important de lier les politiques avec des affects. Et c'est pour ça que j'insiste que cette transition démocratique, il faut la présenter d'une manière qui mobilise des affects qui sont importants pour les citoyens.
Alors justement, Chantal Mouffe, sur cette transition et transformation démocratique verte, telle que vous la nommez, on peut quand même évoquer et donner l'exemple de la France avec la Convention citoyenne pour le climat qui a été organisée et qui a mobilisé peut-être des affects, des émotions, mais surtout aussi des idées, avec un programme et des recommandations qui ont été éditées à l'issue de cette Convention citoyenne. Aujourd'hui, les organisateurs participants sont en train de s'opposer au gouvernement et au chef de l'État parce que le sentiment qu'ils n'ont pas été suffisamment écoutés et que ces recommandations ne sont pas suffisamment appliquées. Est-ce qu'il y avait quand même là pour vous, et ça a été peut-être l'erreur d'y croire, pas suffisamment de conflictualité dans cette convention citoyenne qui a été mise en place? Est-ce qu'on était là dans un exemple de cette illusion du consensus que vous avez là encore théorisé?
Oui, alors là, je suis absolument d'accord avec vous là-dessus. Enfin, c'est exactement ce que je pense, parce que je crois, et ça me préoccupe assez, parce que d'un certain côté, il y a une prise de conscience écologique très forte. Ça, c'est aussi quelque chose qui est nouveau, et c'est en France certainement, mais pas uniquement en France. D'ailleurs, on pourrait reparler de Johnson qui vient maintenant de lancer son projet de Green Industrial Revolution. Il a vraiment volé, il a littéralement volé ça. Labour, qui avait, c'était un des centres de la politique de Corbyn lors des dernières élections. Mais enfin bon, laissons ça de côté. La question, à mon avis, c'est que comment est-ce qu'on va justement envisager cette lutte écologique? Et je vous disais que j'étais un peu préoccupée parce que je crois que beaucoup de mouvements écologiques sont beaucoup trop consensuels. Ils s'imaginent que c'est une question de bon sens. Ben, tous les citoyens, s'ils réfléchissent un peu, s'ils étaient de bonne volonté, devraient se rendre compte qu'il faut absolument qu'on soit d'accord sur cette transition. Or, ce n'est malheureusement pas le cas. En politique, on est toujours dans une question partisane. Il y a toujours un adversaire. Et le mouvement écologique doit absolument reconnaître qu'il y a un adversaire. Il y a des rapports de force. Il y a toute une série, tous ceux qui défendent, si vous voulez, le capitalisme. Mais même si maintenant ils vont proposer un capitalisme vert, parce qu'en fait, c'est ça que défend Johnson. Hein. Il veut, verdir un peu le capitalisme. Et alors, il présente, par exemple, la question, il veut que Londres devienne le centre de la finance verte. Vous vous rendez compte, la finance verte. Donc, il n'est pas du tout question de rompre avec le capitalisme financier.
Et du côté de l'Espagne, et de la démocratie espagnole, Chantal Mouffe, il nous reste peu de temps pour comprendre. C'est un pays que vous connaissez bien. Vous avez inspiré le mouvement Podemos de Pablo Iglesias, dont le leader, qui a d'ailleurs fait son entrée dans le gouvernement en janvier. Comment ça se passe? Est-ce que Podemos a aussi, alors non pas verdi son programme, mais intégré à son programme cette idée de transformation, de transition démocratique verte? Est-ce que c'est devenu un élément fort?
Écoutez, en Espagne, le parti, enfin le groupe qui est le plus clairement dans cette ligne de transformation démocratique verte, c'est en fait Más País. Donc c'est ce mouvement dirigé par Íñigo Errejón qui était avec Pablo Iglesias à l'origine de Podemos. Donc eux, ils sont vraiment sur la ligne de la transition démocratique verte. Alors, dans le cas de Podemos, enfin le parti de base, et Iglesias est vice-ministre, donc et, si vous voulez, ses capacités d'agir sont même limitées un peu par la politique du PSOE, mais ils ont même réussi à pousser un peu à plus à gauche le PSOE. On leur a beaucoup, enfin les gens d'extrême gauche leur ont reproché beaucoup de participer au gouvernement, mais enfin je crois que franchement c'était la meilleure chose à faire parce que Là, il fallait faire bloc contre le danger de la droite et de l'autoritarisme de Vox, qui est le mouvement de populisme de droite. Donc là, il était vraiment important. Alors oui, il y a clairement aussi en Espagne une prise de conscience de l'importance de cette transformation démocratique verte, mais c'est surtout théorisé et par Maspais, donc qui est séparé de Podemos, mais enfin ils sont d'accord sur beaucoup de choses fondamentales.
Je reviens à Londres pour une dernière question, une réponse très courte s'il vous plaît, Chantal Mouffe. On entendait dans le journal de Thomas Cluzel que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni est le premier pays à utiliser le vaccin Pfizer, hein, à lancer sa campagne de vaccination, avec déjà une instrumentalisation de cette question par les pros ou les anti-Brexit. Est-ce que c'est grâce au Brexit que les Anglais sont servis les premiers? La question a été mise en avant. Est-ce que vous allez vous faire vacciner?
Oui, bien sûr, oui. Enfin, quand on m'offrira, certainement. Mais vous savez, c'est ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne pour le moment est tout à fait typique de la politique de Johnson. Hein, il est toujours, il est vraiment, c'est fantastique ce que nous faisons, c'est fantastique, et c'est grâce au Brexit. Alors, bon, vous savez très bien, c'est pas du tout grâce au Brexit, parce qu'en fait, ils sont encore jusqu'au 31 décembre soumis à toute une série de règles de l'Union européenne, et en fait il paraîtrait que il y a une si vous voulez il y avait une possibilité, ils ont pris avantage d'une possibilité qui aurait pu aussi être si vous voulez choisie par d'autres pays. Donc c'est pas du tout à cause du Brexit, mais en fait ça, c'est tout à fait typique du gouvernement de Johnson, qui fait des promesses énormes, mais après, quand on en arrive au moment de la réalisation, il y a très peu de choses. C'est pour ça que je crois que la Green Industrial Revolution, on va voir quoi ça mène. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, et c'est ça, je crois qu'il faut voir. Il y a aujourd'hui plusieurs tentatives, à droite, à gauche, au centre, d'essayer de formuler la question de la transition écologique.
Merci Chantal Mouffe.
Compatible avec leur projet.
On a entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je renvoie les auditeurs vers votre article publié dans Open Démocratie. On reparlera de la Grande-Bretagne et des négociations toujours en cours sur le Brexit et loin d'être abouti avec notre invité, l'historien Robert Tombs, jeudi dans la deuxième partie de la Grande Table. Un grand merci à toute l'équipe, à Thomas Beau, à la réalisation, avec Sylvain Latu. Pour la Grande Table des Idées, c'était Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez. Pour la Grande Table Culture, Oriane Delacroix et Henri Leblanc. Très bel après-midi à tous sur Culture.